Actu SF, les podcasts.
Bonjour, on va essayer de commencer sans attendre les retardataires, parce que sinon on va être là toute l'après-midi. Ce sera avec plaisir, mais je pense que sinon on va se faire un petit peu gronder par les suivants. Donc, merci d'être venu malgré cette chaleur. Je suis très heureux donc d'accueillir, je dirais, deux couples pour que l'on parle, je dirais, d'une manière générale de la bande dessinée. Donc, ça, j'imagine que c'est un sujet qui vous intéresse, mais en tous les cas, moi qui m'intéresse. Et alors, il se trouve que je reçois donc Isabelle Beautian, Anne-Catherine Hoth, avec qui on a déjà fait une rencontre l'année passée. Et avec ces deux personnes, en fait, on pourrait parler de moult sujets. On pourrait aborder plein de sujets, disons, qui seraient une référence, entre guillemets, dans l'édition en termes de, peut-être, de questionnements à soulever, en fait. Par exemple, la place de l'autrice, comme on dit aujourd'hui. Il va falloir s'habituer à ce néologisme, mais on va y arriver. Non, je me doute que c'est même un rétrologisme, mais c'est vrai que, bon, c'est juste pour mes petites oreilles, bon, je vais m'habituer. Donc voilà, on pourrait aborder ce sujet-là parce qu'il est assez important, parce qu'effectivement, sur tout un tas de festivals, sur tout un tas de publications, entre guillemets, la gente féminine est assez finalement peu ou moins représentée. Et donc, ça, je trouve que ça fait quand même, ça vaut le coup de le souligner, peut-être de l'aborder. On reçoit donc Sandra Violo, qui nous a fait le plaisir d'être ici, alors qu'il sera malheureusement obligé de s'échapper entre-temps parce qu'elle a un train qui l'attend. Et donc avec Fabien Fernandez, ils vont un petit peu nous expliquer comment s'est passée la jeunesse de Hayati, si je me souviens bien. Voilà, Hayati, donc nouveau personnage. Je vous souhaite qu'il devienne un vieux et long personnage. On va en parler. On va essayer d'aborder un petit peu la bande dessinée, mais c'est vrai que moi j'ai en premier envie de poser une première question. Avant de parler de la relation du couple entre le scénariste et le dessinateur, comment ça se passe quand c'est un scénario original destiné à une bande dessinée, ou comment ça se passe aussi quand on part d'une adaptation, ce qui est tout à fait possible, j'ai envie de poser la première question à vous quatre. Je dirais, quel serait le premier conseil que vous donneriez à quelqu'un qui voudrait aujourd'hui faire de la bande dessinée? Parce que chaque année, la réponse est forcément peut-être un peu différente d'il y a 10 ans ou d'il y a 5 ans. Et en fonction de ce que vous connaissez aujourd'hui du monde de l'édition, de l'édition française aussi, parce que la franco-belge est quand même une exclusivité quasiment, en tous les cas franco-limitrophe, on dira. Donc, vous avez un petit conseil déjà à donner. Comment ça pourrait se passer aujourd'hui?
En fait, ça va dépendre s'il y a un conseil technique pour avoir le niveau pour réussir à se... Parce que dans ce cas-là, ça va être écrire, et puis dessiner, prendre des avis qui ne soient pas que ceux de notre mère, et voilà. Après, sinon, si c'est d'un point de vue purement pratique, c'est assez difficile de donner un conseil. On a toujours envie de dire suivez ce que vous avez vraiment envie de faire, mais en même temps, on a une responsabilité qui consiste à dire que les éditeurs serrent énormément les vis au niveau du nombre de signatures, particulièrement en ce qui concerne les créations originales, en tout cas les gros éditeurs, et aussi sur les longues séries. Donc moi, au risque de sonner un peu maman, je dirais passez votre bac et ayez quand même un vrai métier. Non, j'irai pas jusque là. Non, mais enfin, c'est toujours mieux d'avoir un plan B. Après, il y a des écoles. Pour le scénario, franchement, ça sert pas forcément. Ça peut être intéressant de faire des stages ou des choses comme ça. Mais il n'y a pas, encore, à ma connaissance, de vraie école de scénario en France, ou en tout cas pas scénario appliqué à la bande dessinée. En dessin, il y a des écoles. Ça peut valoir le coup de les faire, mais moi, après, les dessinateurs me diront ce qu'ils en pensent, mais j'aurais tendance à déconseiller les écoles qui spécialisent uniquement dans la BD, parce que si vous faites une école de dessin, il y a des écoles de dessin qui vont vous permettre de faire du storyboard pour le dessin animé, de bosser pour le cinéma, de bosser pour la pub, bosser en graphisme. Si c'est juste BD, très sincèrement, les éditeurs, ils en ont absolument rien à battre que vous venez d'une école de BD, donc ça vous donnera peut-être des compétences, mais que vous pourrez peut-être aussi acquérir dans des écoles moins spécialisées ou à force de faire du fanzine. Donc moi, j'aurais tendance à déconseiller ces écoles là, mais après, bon, peut-être les dessinateurs auront des précisions.
Globalement, je suis d'accord avec ce qu'Isabelle dit. Donc la prudence quant à ce choix de carrière, parce qu'il dit, disons qu'il devient vraiment difficile d'en vivre. Ça n'a pas toujours été le cas, mais là, en ce moment, c'est compliqué. Donc voilà, j'ai pas envie que les gens se jettent là-dedans en se disant je vais réaliser tous mes rêves, mais parfois ça suffit pas. Cela dit, moi je fais partie des gens qui persistent, parce que je suis un peu butée. Pour ce qui est vraiment des écoles, je pense que franchement en autodidacte c'est vraiment possible, mais il faut vraiment beaucoup bosser dans son coin et aussi avoir beaucoup de recul sur ce qu'on fait. Faut lire beaucoup de choses très différentes, parce que la BD c'est pas que du dessin, c'est de la narration, c'est avant tout de la narration. Du découpage. Je ne suis pas persuadée qu'une école soit nécessaire. Parce qu'en plus, maintenant, il y a des grandes communautés sur Internet où on peut échanger sur ce qu'on fait, voir visiblement ses progrès. Après, il y a des gens que ça rassure peut-être, des parents que ça peut rassurer peut-être, parce qu'ils se disent que c'est un truc que ça professionnalise, il y a un diplôme à la fin, mais ça ne change strictement rien au moment de signer un contrat ou de faire une vraie BD, en fait. Donc, c'est-à-dire même en auto-édition. Je veux dire, ça ne changera rien à la qualité de votre produit. Je ne suis pas sûre qu'une école soit vraiment une valeur ajoutée. C'est mon point de vue, quoi. Mais gardez votre argent. Parce que parfois, c'est cher, en plus. Moi, j'ai fait une école de dessin animé, qui est déjà beaucoup plus technique. Et maintenant, je pense qu'à l'époque où je le faisais, Internet était moins développé, les outils numériques aussi moins. Mais je pense que maintenant, il y a presque moyen de devenir... se professionnaliser en dessin animé en étant quasiment autodidacte. Parce que des logiciels d'animation, tu peux en trouver, plus ou moins gratuits, tu peux les craquer. Pareil, il y a des grosses communautés de créateurs, tu peux progresser dans ton compte faisant tes petits courts-métrages. Et il y a quasiment moyen, pareil pour le storyboard. Il y a Nathalie Nouriga, qui a fait un bouquin comme ça, qui a dit je me suis mise à bosser dans l'animation en Californie en étant autodidacte et en n'ayant pas fait d'école. Donc voilà, ça peut être intéressant. Son bouquin vient sortir en France, s'il y en a que ça intéresse. Voilà, elle bosse chez Disney maintenant. Oui, voilà. Oh, ils prennent les premiers venus. Hein. Et donc, tout est possible. Après, bon, les écoles d'animation sont quand même bonnes en France. Moi, j'ai fait l'MK à Angoulême. Il y a plein de gens bien qui en sortent maintenant et qui font même de la BD. Ils ont abandonné ce merveilleux statut d'intermittent. Donc, voilà. Je ne pense pas qu'une école soit nécessaire, quoi.
Et alors, Sandra, par rapport à cette question, étant donné que, si j'ai bien compris, donc c'est ta première publication... Donc le parcours évoqué par Anne-Catherine, peut-être il n'est pas si loin que ça. Alors qu'est-ce que tu pourrais en dire en fait ? Pour en même temps présenter, voilà, ton parcours, ça peut être une bonne base de.
Alors moi, pour le coup, j'ai fait une école chère. Donc j'ai dépensé mon argent, surtout celui de mes parents. Non, pas Émile Cole, une école qui s'appelle l'ENAI à Chambéry. Et alors, je suis d'accord avec ce que tu dis, mais moi personnellement, j'avais besoin d'une école déjà pour me cadrer et aussi pour me donner confiance en moi. Parce que quand tu sors avec un diplôme, que derrière toi, tu as des profs qui sont eux-mêmes auteurs de BD ou de dessins animés ou publicitaires qui te disent « on considère que tu as ce diplôme, donc tu as des compétences », pour la confiance en soi, c'est sans prix.
Ce qui est bien, c'est que du coup, c'était professionnalisant aussi, justement pour ne pas faire que de la BD.
Oui, voilà, ça, je suis carrément d'accord.
Ils t'ont fait faire des choses qui te permettent de travailler dans d'autres, dans d'autres domaines. Là, ça peut être intéressant.
L'école était axée là-dessus. L'école était axée sur quatre bases. Donc, je fais la petite pub pour les Naïs à Chambéry. Après, je sais pas, c'était comme ça il y a 7 ou 8 ans, mais peut-être que ça a changé. Mais oui, le truc de base, c'est ok, tu es un élève, tu aimes le dessin, viens, on va t'apprendre plein de trucs. De façon à ce que si jamais tu crèves la dalle à un moment, tu vas pouvoir faire des affiches, tu vas pouvoir faire des logos, tu vas pouvoir faire plein de trucs. Et c'est vrai que vu que, comme tu dis, c'est très difficile de vivre de la BD, moi personnellement, ce que je fais, c'est que j'ai fait cette première BD avec Fabien et c'était super. Mais en parallèle, je fais de la colorisation de bouquins. Donc j'ai deux métiers en même temps. Mais qui se complètent bien l'un et l'autre, puisque ça reste du graphisme. Après, par rapport à quelqu'un qui veut faire de la BD, en sortant du côté école, pas école, je rajouterais vraiment bien s'entourer. S'entourer de personnes bienveillantes, s'entourer de personnes critiques. Aller à des salons, demander des trucs, faites chier les auteurs, montrez-leur votre book. Et j'en profite aussi pour faire de la pub pour le salon de Montreuil, le salon du livre jeunesse de Montreuil, qui permet de rencontrer des directeurs artistiques. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Fabien. Oui, quand tu es jeune, c'est vrai. Il faut avoir moins de 30 ans. Et le fait d'avoir des premiers contacts avec des éditeurs, attendez-vous peut-être à vous faire pourrir parce que les gens ne sont pas forcément toujours bienveillants, mais quoi qu'il arrive, vous allez ressortir au moins fort d'une première confrontation avec quelqu'un en face de vous qui pourrait éventuellement vous éditer. Et rien que ça, on fait ses premières armes comme ça, ce qui fait que quand on est prêt, parce qu'on a un bon dessin, un bon niveau, et qu'en plus on a la confiance en soi d'avoir fait 4 ou 5 entretiens dans sa vie, c'est vachement facilitant. Donc bien s'entourer de collègues artistes, de critiques, aller montrer son book et puis faire plein de salons.
Alors avant qu'on rentre dans le détail de scénario, petite case, petit Mickey, petit dessin, Fabien, toi qui as quand même un peu de route maintenant dans le métier, d'une manière un petit peu éclectique sur pas mal de supports différents, au travers de la question posée, peux-tu aussi nous éclairer un petit peu sur la rencontre justement avec Sandra et puis la genèse de Hayati, quoi. Comment vous avez enfanté de
cette jeune... J'ai une belle histoire là-dessus à vous raconter. pour le résumer, ouais, je suis auteur-illustrateur. Pour juste rajouter un petit truc là-dessus, moi j'ai fait une école, mais pas du coup tout, de dessin pur pour la BD. J'ai fait art appliqué, donc on touche à tout. J'ai fait de la tapisserie, j'ai fait de la céramique. Et c'est très bête à dire, mais ça aide vachement pour des supports comme la BD. On doit savoir tout dessiner, donc penser aussi à trimballer un carnet pour faire des croquis en permanence. Et pensez à éviter les grosses affiches de boîtes d'école où il y a marqué « Vous allez faire de la BD », mais en fait, on vous former pour un BTS communication visuelle pour faire de la pub comme beaucoup de personnes. La BD, ce sera juste un truc d'une heure, une fois de temps en temps. Petite parenthèse terminée. Alors, la genèse d'Hayati, en fait, moi, j'étais directeur artistique d'une petite collection de contes, et c'était donc Montreuil. Et j'avais vu pas mal de books dans la journée, je me préparais à sortir et puis j'en avais marre comme souvent au bout des salons, on a la tête avec des gamins qui hurlent dans tous les sens, on est un peu fatigué quoi. Et là mon téléphone sonne et puis on m'avait dit qu'il y avait quelqu'un qui voulait me voir et puis là bonjour, est-ce que je pourrais vous parler, je me présente, voilà, j'ai un book. Là, j'ai quelques 30 secondes d'arrêt, je me suis dit pff, oh non, la porte elle est là à 2 mètres. Et après, je sais pas, mon cerveau a dû avoir un court-circuit et je me suis dit, ouais, en même temps, je serai à sa place. Moi, ça va me prendre peut-être 5 minutes de voir son book et ça peut peut-être lui donner un avis en plus. Donc, j'ai pris le temps de regarder son book. J'ai adoré ce que faisait Sandra. Donc, elle a fait un petit livre dans ma collection. La collection, pour l'instant, elle est un petit peu en stand-by. On s'en fiche. Mais
c'est chez qui, cette collection ?
Mananan. Mananan, c'est une petite maison d'édition qui est lilloise. C'est un peu trop bordélique et ils sont adorables, mais c'est pas très bien géré en fait. Je les aime beaucoup et peut-être qu'on fera d'autres choses ensemble, mais pour l'instant c'est en stand-by. Et donc du coup, voilà, quand j'ai eu une idée de BD, j'ai dit à Sandra, écoute, j'ai adoré bosser avec toi, j'ai une idée de BD, est-ce que t'es partante ? Et elle a dit oui, donc on a bossé pas mal notre truc. Accessoirement, moi, comme école véritablement de scénario, j'ai fait un stage. Un stage à l'école Cézanne, qui est une petite école parisienne, mais surtout avec quelqu'un de très bien qui s'appelle Anne Guéraud, qui est la moitié de Ange, ce pseudo qui est sur les BD. Et Anne est quelqu'un de formidable et de très pédagogue. Donc moi, j'avais un acquis parce que je fais du scénario de jeu de rôle, j'écris des bouquins, des choses comme ça. Mais c'est assez particulier de scénariser une BD. Et donc du coup, elle m'a donné les clés pour avancer. Et ça, c'était vachement bien.
Alors justement, quand tu dis c'est assez particulier de scénariser une BD, lorsque tu dis à Sandra j'ai un projet de bande dessinée, tu lui fournis quoi ? Et donc dans votre ligne de travail, en fait, j'imagine que pour vous c'est peut-être pareil ou différent votre manière de travailler, mais vous avez déjà quelques albums à vos actifs, à votre actif en commun. Mais donc voilà, qu'est-ce que le scénariste fournit finalement et qu'est-ce que le dessinateur est en droit d'attendre de la part du scénariste ?
Déjà, en fait, ma dessinatrice, c'est un petit peu comme un éditeur, il faut la convaincre. Donc je lui ai dit, écoute, j'ai une héroïne qui est badass, elle ne va pas aller se faire sauver par le prince et elle va péter la gueule à des démons. Et donc du coup, déjà à partir de là, on a un bon synopsis, on a travaillé.
Pitch bien, ouais, c'est vrai.
Et on a travaillé sur l'univers ensemble, en fait. Moi, j'ai mon histoire, mais on a travaillé, Sandra a apporté vraiment tout le côté visuel. Son dessin a énormément apporté. On s'est répondu là-dessus pour construire autour de mon histoire et la perfectionner pour monter un dossier. Et ensuite, on a été démarché éditeur, mais on en parlera peut-être après de cette partie-là. Je vais laisser la parole.
Après, le rapport entre le scénariste et le dessinateur, ça va vraiment dépendre du binôme. Il y a des scénaristes, beaucoup de scénaristes qui sont eux-mêmes dessinateurs, mais pas que, qui vont jusqu'à faire un découpage super précis Moi, je suis incapable de faire ça, déjà parce que je suis incapable de faire ça, parce que je ne sais pas le faire, mais en plus, moi, j'aurais l'impression de contraindre, enfin, que le dessinateur serait mon technicien. Ceci étant, il y a des dessinateurs qui apprécient ça, mais moi, c'est vraiment pas ce genre de choses qui m'intéressent. Il y en a qui écrivent quasiment comme un roman, et c'est au dessinateur de faire la mise en scène. Avec Anne-Catherine, c'est parti. Moi, j'ai tendance à m'adapter pas mal au dessinateur, sachant que j'ai conscience d'avoir une imagination qui est plutôt plus littéraire que visuelle. Donc, je laisse... c'est pas la peine de rigoler. Donc j'ai tendance à me reposer, enfin, à aimer travailler avec des dessinateurs qui ont vraiment qui ont pas peur de prendre des libertés au niveau visuel, au niveau création d'univers. Je donne des grandes lignes et après, bah, comme tu disais, on essaie d'un peu de développer les univers ensemble. Autant j'aime pas trop qu'il y ait trop d'interventions sur le texte pur parce que bah déjà, bon, je sais que, j'ai, que c'est assez carré ce que je sors, mais c'est aussi, ça interfère pas mal avec ma méthode de travail quand on vient me demander de réfléchir à chaque truc. Bon, après, voilà, on peut s'adapter aussi. Mais du coup, j'interviens assez peu sur la partie vraiment créative du dessin. Donc, évidemment, quand je dis j'aime pas qu'on réagisse sur mon texte, si y a un truc qui est naze, faut qu'on me le dise. Hein. Le dessinateur, c'est quand même notre premier lecteur. Mais donc voilà. Et avec Anne-Catherine, c'est particulier parce que ça fait donc Versipel, c'est notre quatrième et cinquième album ensemble. Enfin, et en fait, sur Havre, qui est le premier livre qu'on avait fait, qui était chez Ankama et qu'on a maintenant réédité, j'avais tendance à faire à dire case 1 il se passe ça, case 2 il se passe ça, et maintenant j'ai plus tendance à lui faire un découpage, enfin à lui dire les choses qui se passent dans la page. Et vas-y, ouais.
Bah, disons qu'en plus, Havre, c'était ma première BD, donc j'étais. J'étais vachement scolaire, c'est-à-dire que Isabelle, dans le premier tome surtout, ça se sent un peu, elle m'avait donné un découpage donc assez précis, genre ben, bandeau 1, case 1, case 2 et tout ça. Et j'ai essayé de vachement y coller, ce qui ne marchait pas nécessairement en fait. Donc à partir du tome 2, je me dis, bon ben, je vais m'autoriser à peut-être condenser des cases, en éclater, etc.
Surtout que je ne vérifie pas moi.
Oui, voilà. Donc du moment que ça marche, elle dit rien quoi. Du moment que je n'interviens pas sur les dialogues ou que je ne décide pas de faire apparaître un dragon quand il n'y en a pas, tout va bien. Et c'est bien parce que moi, ça m'a permis de bien progresser, aussi de prendre confiance. Là aussi où tu parles, là où je rigolais, parce qu'on a des petits trucs ensemble. C'est vrai que parfois, Isabelle, elle est donc très concentrée sur les relations avec les personnages, mais parfois en termes d'environnement, j'ai que dalle. Donc au début, je râlais, puis finalement, je me dis c'est une grande marge de liberté qu'il faut apprendre à saisir. Et peut-être si un jour... Je désespère pas de collaborer avec d'autres gens, même si j'aime bien collaborer avec toi. Peut-être que je vais pas apprécier de perdre cette liberté. Enfin, il y a peut-être des scénaristes qui vont dire, mais pourquoi ? Enfin, c'est pas ce que j'ai dit. Oui, mais je me disais que ça marcherait mieux comme ça. Donc, et sur Versipel, donc c'est encore différent. C'était au moment où on faisait le dossier. T'avais pas beaucoup de temps. Je lui ai dit, écoute, Isabelle, donne-moi les pages, mais sans les découper en interne. Donc, c'est-à-dire page 1, il se passe ça. Et puis, je me démerde dedans pour mettre les cases. Rythmer la narration moi-même. Et finalement, ben, ça marche pas mal. Déjà parce que, ben, après Havre, j'avais pris un peu de bouteille sur ces outils-là, la narration. Même sur le tome 2, je me suis carrément autorisée à rajouter des pages parce qu'il y avait des moments. Ben, quand on écrit, parfois, on a l'impression que ça prend pas de place à dessiner. Et parfois, eh ben, si on veut comprendre l'action, faut mettre plein de cases. Et
du coup, je me suis. 5000.
Voilà. Ben, disons qu'une page avec 15 cases, si on veut un truc un peu épique, ça marche pas très bien. Donc, là, et comme du coup, par contre, tu me prévois déjà des pages, des vis-à-vis de pages, si j'en rajoute une, je suis obligée d'en rajouter une deuxième. Du coup, c'est bien, dans le tome 2, vous avez une belle double page où j'avais plein de place pour faire un truc qui déboîte un peu. Donc, c'est le plan budget. Si c'était du cinéma, ça nous aurait coûté beaucoup d'argent. Là, non. Et du coup, j'en ai profité pour un peu m'étaler pour une fois, comme une grande. Et voilà comment ça a évolué, un peu notre collaboration, quoi.
Et dans la relation donc scénariste-dessinateur, lorsque le scénariste est lui-même dessinateur, en fait, est-ce qu'il n'a pas tendance un peu à déborder ?
Un petit peu. J'ai la pression. Non, un petit peu, mais c'est pas désagréable. Déjà parce que le premier avantage de ça, c'est que quand il me demande de refaire quelque chose, il sait exactement ce que ça va me coûter en termes d'énergie. Et du coup, s'il me dit, par exemple, bah là, au lieu d'une simple plaine, tu vas me faire une énorme bibliothèque géante, par exemple, que je n'ai toujours pas faite, que je ne ferai peut-être pas, bah, il sait que ça va me prendre du temps, etc. En fait, il sait par quoi il est passé lui-même. Donc, peut-être qu'un scénariste qui n'a pas l'habitude de dessiner ne se rendrait pas compte. Lui, il peut carrément se dire, bah voilà, ça va prendre 2 heures ou ça va prendre 2 jours. Et ça, c'est plutôt pas mal. Après, ce que fait Fabien et ce que je lui ai demandé de faire aussi, c'est que vu que c'est ma première BD, j'ai beaucoup aimé avoir ce support-là, en fait. J'ai beaucoup aimé avoir son avis. Et donc, à la fois, il me corrige dans les dessins quand la main est trop petite ou trop grande. Mais au tout début, quand il me donne justement la page avec le découpage et tout ce que tu disais, case 1, case 2, etc., il me fait aussi un storyboard, son storyboard. Et je le regarde pas. Je lis d'abord ce qu'il m'a écrit. Je fais mon petit croquis de storyboard. Moi, j'aurais mis une case comme ça parce qu'il y a du temps qui passe, ou une case comme ça parce qu'il y a une chute. Et ensuite, je vois ce que lui, il a fait.
Une petite précision sur le storyboard. De mon côté, je fais des dessins moches exprès parce que je lui place les cases, les éléments de ma vision des choses pour qu'elle ait un support pour comprendre ce que je veux. Mais je ne veux surtout pas l'influencer dans son dessin. Donc, c'est des dessins très moches. J'espère que ça ne sortira jamais des archives parce que c'est vraiment très, très moche. Voilà, c'était juste.
Ok, donc ça, on les fait publier dans le tome 2. Mais oui, du coup, c'est chouette parce que tu me donnes au moins la narration, au moins les formes des cases. Et donc, du coup, comment est-ce que tu les prévois, toi? Et donc, il y a plein de fois où j'ai fait mon propre storyboard. J'avais le sien sous les yeux, je compare les deux et je me dis, bon, alors je vais prendre ça du mien, ça du sien. Je lui soumets à son avis et ensuite on en parle et voilà.
Et donc, dans la carrière de Fabien, il vient de se rendre compte qu'il était mieux payé à faire des dessins moches, finalement, c'est ça?
Ouais, c'est
donc,
c'est
est-ce que tu vas finir par faire que du scénario ou tu vas refaire de l'illustration un jour?
En même temps, c'est pas mal de faire que du dessin moche, mais je sais pas combien ça peut me payer à terme. Non, je vais continuer à faire du scénario, ne serait-ce qu'avec Sandra. J'ai d'autres projets, mais qui rament un petit peu. Parce que déjà, on a un personnage qu'on aime bien tous les deux, un univers qu'on a créé vraiment ensemble et qui a l'air de pas si mal marcher pour le lancement. Et après, il faudra voir justement les conditions contractuelles du tome 2 et plus, sachant qu'on a de potentielles traductions au bout de X tomes qui peuvent se faire. Donc ça donne de l'espoir sur pouvoir en vivre peut-être un jour. Voilà. N'oubliez pas, il faut un plan B pour commencer, autant dans la BD que dans l'écriture, toujours plan B pour commencer. Mais ce plan B, c'est un tremplin aussi. N'oubliez pas que si vous voulez pleinement en vivre, vous construisez votre carrière et vous prenez le flambé pour tremplin. Et donc, du coup, ouais, continuer à scénariser et à faire d'autres choses, parce que c'est important de faire d'autres choses pour s'enrichir culturellement, on va dire, au moins. Oh.
Pour cette histoire de plan B, j'aimerais bien rajouter un truc, parce que moi, par exemple, au début, je n'en prenais pas, on ne m'en proposait pas non plus, parce que personne ne me connaissait, mais je ne prenais pas de commandes. Je me suis mise de plus en plus à travailler sur des commandes en parallèle de mes créations personnelles, voire sur des travaux parallèles d'écriture. Je fais de la traduction, j'ai fait un peu de presse. Et j'envisageais des trucs vraiment, pas pourris, hein, mais des trucs alimentaires, voilà, qui ne sont pas spécialement valorisants. J'ai longuement hésité à faire ça, parce que c'est vrai si on n'a pas l'impression de se prostituer, on dit mais tout le temps que je vais passer à ça et que j'aurai pas pour mon art. Et en fait, c'est pas forcément un bon calcul. Donc ça va peut-être dépendre de votre processus créatif, mais mine de rien, quand vous voulez faire votre art, c'est plutôt cool d'avoir l'esprit libre pour créer. Et quand on fait des œuvres personnelles et qu'on se dit constamment putain faut que j'en signe une autre, putain faut que j'en signe une autre, c'est pas terrible pour avoir l'esprit libre pour créer. Et bizarrement, le fait d'avoir pris quelques commandes, d'avoir même limite essentiellement des commandes, ça me libère l'esprit pour mes projets les plus personnels. Je fais du roman aussi, c'est un énorme investissement de temps. Et même littéralement, matériellement, j'ai plus de temps disponible et j'écris plus d'œuvres personnelles depuis que je prends des commandes. Donc ce n'est pas une règle de vie, hein, mais c'est juste pour dire que pour moi, ça a marché. Pour en avoir discuté avec d'autres auteurs, ça a marché aussi. Donc il ne faut pas forcément être braqué contre les plans alimentaires, ce qui ne veut pas dire accepter n'importe quoi si ce n'est pas nos valeurs ou complètement un autre problème, mais pas imaginer qu'on va perdre du temps pour notre création, parce que ça pourrait très très bien être l'inverse.
Et je voudrais rebondir sur ce que tu dis, parce que je trouve aussi que, alors en tant qu'autrice de BD et dessinatrice de BD, c'est un métier hyper solitaire, et du coup quand tu te retrouves à faire des commandes de colorisation et que tu es au téléphone avec une autre éditrice, ou que tu envoies des mails, ou même que si jamais tu as un boulot alimentaire de serveuse dans une brasserie, bah, des fois ça peut soit t'équilibrer au niveau économique, mais aussi au niveau, voilà, je vois du monde. le reste du monde existe encore. Et je ne sais plus quel scénariste que je connaissais disait que lui, ça, son but, vu qu'il écrivait sur les gens, c'était de vivre en partie avec les gens. Et du coup, quand tu ne te coupes pas du reste du monde pour rester dans ta tour d'ivoire et ne faire que ta création, ça peut équilibrer aussi au niveau psychique.
Ceci n'étant pas une excuse pour mal payer les auteurs qui devraient être payés à la mesure de leur travail, qu'ils choisissent ou non de faire un boulot alimentaire à côté.
On va en parler. D'un côté, on a donc Versipel avec Havre aussi, qui sont des récits, disons, prévus en nombre de tomes, finis lorsque vous les avez présentés, j'imagine.
Havre, c'était particulier parce qu'en fait, on l'avait envoyé des dossiers à plusieurs. Au départ, moi, j'étais partie sur du 46 pages classique. Et en fait, comme c'est Ankama qui l'avait signé au départ, il voulait n'importe quel format sauf du 46 pages. Et donc, on a fait 3 fois 90, donc c'était pas anticipé. Mais sinon, en général, c'est anticipé. Et quand vous avez. Alors après, ça dépend, quand vous êtes débutant, c'est vrai que c'est peut-être bien de penser au format, d'arriver avec une idée un peu carrée du format. Moi, je sais que maintenant que je commence à avoir un peu de réseau, j'ai tendance à aller un peu tâter le terrain auprès de divers éditeurs. Et selon l'éditeur qui est intéressé, réfléchir à. Je donne des idées, je dis ce que moi j'aimerais bien faire au niveau pagination, mais j'évite de trop avancer tant que j'ai pas au moins un petit intérêt, si ce n'est un accord de principe, parce que si c'est galère de partir sur un format et de voir, ça modifie pas mal la narration. Sur le premier tome de Havre, ça se sentait quand même qu'il y avait une vraie rupture au milieu qui n'aurait jamais eu lieu si j'avais su dès le début que c'était un 90 planches.
Et pour la perspective ouverte concernant votre récit, en fait, ça va dépendre de quoi ?
J'ai pas compris la question.
Vous partez sur un tome, c'est un premier tome a priori.
C'est un premier tome qui peut.
Donc le second va dépendre de quoi ?
Du bon vouloir de l'éditeur ?
J'ai fait un mail à l'éditrice il y a 2 jours. Je lui ai dit, écoute...
Vous pouvez nous expliquer un peu comment ça se passe dans la cuisine interne ? Là, ils attendent.
Alors déjà, pour revenir sur le. Avant le premier tome, il y a le premier tome. Nous, on a monté un dossier, on a démarché. Il y a donc Stenkis qui a Jungle qui a flashé sur le dessin de Sandra. On s'est vu plusieurs fois, on a fait un dossier, on a refait un dossier, on a refait un dossier, parce que ça passe en comité, enfin c'est très spécial là-bas, je ne sais pas comment c'est chez les autres. Et au bout d'un an, on en était à 4 ou 5 versions du dossier, et j'ai donc dit à l'éditrice, écoute, là on a vachement bien bossé le dossier, ça veut dire qu'il est prêt pour d'autres éditeurs, donc c'est oui ou c'est non. En 24 heures, on a dit, oui, alors du coup, voici le contrat. Ensuite, on a négocié le contrat vraiment point par point. C'est encore un peu plus compliqué, mais voilà. Voilà comment on est arrivé au premier tome. Donc, il y a 2 jours, j'ai fait un mail à l'éditrice pour lui dire « ça part plutôt pas mal, on a des bons retours. Que faut-il attendre pour lancer le deuxième tome ?» Parce que si on attend les premiers chiffres de vente dans un an, c'est-à-dire qu'on commence les travaux dans 1 an et demi, 2 ans, c'est-à-dire que le tome 2, il sera là dans 3 ou 4 ans. Pour le lecteur, c'est quand même pas agréable, quoi.
C'est délicat parce qu'on est sur un public plutôt jeune et ça grandit, ces bêtes-là. Du coup, si jamais on attend 2 ans pour faire une BD pour des gens en CM2, ils vont arriver en 5e quand le tome 2 va arriver, donc c'est pas forcément très bien. Mais a priori, ils attendent les retours des ventes pour se décider. Mais bon, j'ai bon espoir, moi, personnellement.
On va les relancer la semaine prochaine, ça fera 4 jours. Donc on
n'ai pas encore eu la réponse.
Non, c'est le week-end, là. Les éditeurs ne bossent pas le week-end. Hein. Si vous voulez les relancer, considérez ces jours-là comme morts et ainsi de suite. Hein. Les jours fériés, ainsi de suite. Voilà.
Sur la table, il y a un petit mystère qu'on va peut-être essayer d'éclairer. C'est que Isabelle, tu nous as parlé donc de Ankama. Ankama, c'est quand même une boîte aujourd'hui quand même plutôt bien assise, bien connue et reconnue. Havre sort en 2 tomes chez eux. Les 3 sont sortis ?
Oui, les 3 sont sortis. Troisième a une durée de vie en librairie très brève.
Ah, je ne l'ai pas vu passer du coup.
Voilà, bon, comme beaucoup de gens.
Et donc voilà, alors comment un an après ou quelques années après la sortie, on se retrouve à auto-éditer son propre album ?
Ankama c'était vraiment à l'époque où Ankama était une vraie pépinière de talent et signait énormément de choses dans des formats un petit peu audacieux et ils avaient beaucoup apprécié le dossier et nous l'ont signé et ils se sont mis d'accord on s'est mis d'accord sur une trilogie. On avait un accord de principe sur une trilogie, donc ça c'est assez confortable. Bon, sans rentrer dans les détails, en fait, ils ont complètement planté la collection dans laquelle c'était. C'est la collection Araignée. C'était des bouquins qui se voulaient à la fois d'aventure, enfin plutôt SF, mais avec une petite touche sociétale.
Un peu littérature de genre, mais...
mais littérature,
plus,
voilà. Donc, et le truc, c'est qu'ils n'ont pas, ils ont pas réussi à la vendre, ils l'ont complètement planté. Et nous, le tome 3, c'est au point... On avait eu des retours, mais dithyrambiques sur cette BD. Ça doit être parmi les meilleurs retours que j'ai jamais eu. Et en fait, ils sont plantés, et ils sont tellement bien plantés qu'ils nous ont proposé eux-mêmes de nous rendre les droits. De là...
Je veux dire, comme matériellement, en fait, on ne sait pas qui est responsable, comment ça s'est passé, mais le tome 3 est sorti sans le soutien des deux premiers tomes qui avaient été détruits. Voilà, donc évidemment, eux, ils ne se sentaient pas de réimprimer les 1 et 2 ou de faire une intégrale, donc ils nous disent, reprenez votre bébé, on est désolé, on a tout cassé. C'est un peu ça.
Et donc, entre-temps, ce qui s'est passé, c'est que moi, je l'ai traduit en anglais avec l'aide de deux écrivains anglo-saxons. On a essayé de le vendre aux États-Unis. Ça a failli le faire chez un gros éditeur américain. On n'a pas passé le cap du Big Boss. Ça a failli le faire aussi en intégrale chez un éditeur français. Mais pareil, finalement, non. Donc, on a mis le temps. Et au bout d'un moment, on s'est dit, en gros, merde, on le fait nous-mêmes. Et donc, on a monté une maison d'édition associative pour éditer... auto-édité Havre, et on va le sortir en numérique pour que les gens qui n'avaient eu que les deux premiers tomes puissent au moins avoir le 3.
Ils ne soient pas obligés de prendre l'intégrale.
Même si pour l'instant, ils prennent l'intégrale. Mais bon.
Oui, d'ailleurs, c'est l'amour du papier. Mais je veux dire, après, ceux qui n'ont pas 29 euros à dépenser, s'ils veulent juste connaître la fin de l'histoire, ils pourront. Voilà.
Parce qu'on s'est dit, c'est vraiment dommage. Alors en même temps, c'était un bouquin qu'on avait fait il y a longtemps, mais je pense qu'on était quand même toutes les deux relativement encore satisfaites. On a fait, Anne-Catherine a fait des retouches de dessin, moi je fais quelques retouches de tête.
J'ai redessiné toutes les têtes d'un personnage sur le tome 1. Puis après, je me suis dit, ce n'est pas sain psychologiquement de faire ça, donc j'ai arrêté.
et donc on a monté une maison d'édition associative dont on fera peut-être autre chose par ailleurs, mais qui pour l'instant est consacrée à ça.
Donc là, vous avez un petit peu changé de métier. Comment ça se passe quand on est invité sur un salon, donc en tant qu'auteur ou autrice, que l'on vient pour une librairie, et que du coup, on va envisager de ramener dans la voiture les cartons d'un de ces autres tomes, en fait.
Voilà, on l'a fait à la pirate, là. On peut les mettre, ouais, cool, allez.
Bon, après, on a commencé light, hein. On a fait un petit tirage pour tâter le terrain. Là, c'est l'occasion, les imaginales, un petit peu, quoi. Donc,
Sur votre, puisque c'est un cas qui est particulier, mais qui est répété quand même chez quelques auteurs, ça vous est pas venu à l'idée de faire un crowdfunding pour faire ça, sachant que vous aviez une base de lecteurs ?
Je suis pas certaine qu'on ait une base énorme, parce que Isabelle et moi, Isabelle, toi, ta notoriété grandit parce que avec les romans, doucement ton nom, et puis tu fais plus d'ouvrages que moi. Bon, moi, je reste quand même bravement une inconnue. Et puis, je ne suis pas une personne très présente sur les réseaux sociaux, ni quoi que ce soit, donc j'ai conscience que si tu as... Bah ouais, qu'il y en ait aussi un.
On a hésité.
En plus, là, ces dernières années, pour des raisons personnelles, moi, je me suis un petit peu, justement, un peu recroquevillée. J'ai moins mis de dessins en ligne, parce que faute de temps, et puis pour des raisons de difficultés créatrices. Alors, je ne vais pas dire mettre ça sur le dos de la famille, mais on est toutes les deux jeunes mamans. Et le temps serait très si beaucoup. et en fait, moi, j'ai. C'est énormément de boulot de bien monter un crowdfunding, si en plus il marche, de surcroît.
Il y a le risque que ça marche trop bien aussi.
J'avoue, moi, je me sentais pas trop les épaules de le faire. J'avais pas envie de dire à Isabelle, oui, vas-y, tu portes tout à bout de bras. Déjà, moi, je suis en panique totale parce que dans l'asso, je suis trésorière. Donc, t'imagines mon taux de réaction à la responsabilisation. donc, un crowdfunding.
C'est une association loi 1901.
Oui.
Mais donc, du coup, vous êtes présidente et trésorière.
Ouais.
Et il me semble que d'après les statuts, vous n'avez pas le droit de toucher des droits.
Il y a une limite, en fait, un SMIC, je crois.
Il y a un trois quarts de SMIC. Je crois que tu as le droit de toucher les trois quarts de SMIC si tu as les fonctions dirigeantes dans une
association. Après, l'idée, justement, c'est que ce qu'on gagne, ça sert à faire d'autres tirages ou éventuellement imprimer d'autres ouvrages. Voilà, parce qu'on se dit, tant qu'on va avoir la structure, on va essayer d'avoir d'autres projets dessus, quoi.
C'est pas de devenir riche, on se fait pas d'illusions. Mais voilà. Un crowdfunding, c'est énormément de travail et c'est soit avoir une vraiment grosse fanbase. Et en plus, j'ai de la fanbase de quelques livres, c'est pas forcément la fanbase des sciences, surtout que je suis à la fois en littérature et en BD. Et
oui, c'est vrai.
Alors, pour en construire une, faut être quand même bon en com.
Voilà. Bon, moi, j'y
et
suis
savoir
pas
utiliser
là,
les réseaux travaille. Et nous, on le sentait pas.
Depuis un mois, j'ai un peut-être smartphone, j'ai Instagram. Maintenant, je mets plus de dessins. Donc voilà. Non, mais oui, je suis rentrée dans le 21e siècle. Oui, merci.
une double question, même par rapport à la première discussion. Est-ce que vous vivez de votre art aujourd'hui, que ce soit l'écriture ou la bande dessinée en termes de dessin, d'une part, et d'autre part, le fait de découvrir, entre guillemets, le fonctionnement de l'édition, entre guillemets, si vous n'êtes pas pressé sur l'écoulement de l'intégrale, vous allez vite vous rendre compte que c'est beaucoup plus lucratif d'être son auto-éditeur.
Ça, il n'y a pas loin. La raison pour laquelle on ne le fait pas, c'est parce que c'est un autre métier. Hein. Oui. Et encore, ce n'est pas tant l'édition, c'est la distribution.
Oui.
Parce qu'encore, l'édition, bon. Mais la distribution, voilà, si on veut, doit aller le mettre chez les libraires. Enfin, moi, j'avais fait une petite incursion auto-édition en roman avant que le label qu'on avait créé soit racheté par les éditions ActuSF. Je savais déjà qu'on gagne infiniment mieux sa vie en auto-édition. La raison pour laquelle je ne le fais pas, c'est parce que je n'ai pas envie de passer tout ce temps à faire de la distrib. C'est tout. Hein.
C'est vraiment une autre logistique, quoi. Moi, je préfère dessiner des albums que les vendre.
Oui,
membres.
Mais là,
en fait, c'est
là pour
moche,
le coup, vous allez le faire.
Bah, on est un
parce
peu obligé.
Parce que sinon,
quoi.
Vous allez garder les cartons à la maison.
Bon, en même temps, c'est un album qui a déjà été fait. Donc, on n'a pas le sentiment de devoir mener les deux batailles en même temps, quoi.
On a déjà été payé, en fait, pour ce bouquin.
Oui, voilà. Donc, en quelque sorte, oui, voilà.
On va le vendre sur les festivals. Bon, là, c'était sur un stand de libraire. Donc, on a demandé juste la permission, quand même, pour être poli, quand même, au libraire.
Non,
ils ne nous prennent pas pourcentage parce qu'on le vend nous-mêmes et parce que je sais qu'ils ne payent pas les stands imaginales. voilà. Mais par contre, effectivement, si on est sur des salons comme Angoulême ou Saint-Malo, où là, on sera sur des stands d'éditeurs et l'éditeur paye cher le stand, on demande, ou même des fois quand le libraire doit payer cher son stand, là, effectivement, il faut négocier un peu en amont et demander dans quelle mesure on peut s'arranger. Une courtoisie de base, on va dire.
J'aimerais bien qu'on aborde, avant la fin de l'heure, parce que l'heure tourne quand même de toute façon, malheureusement. Sandra, tu nous préviens si tu dois sauter dans ton train à tout moment. J'aimerais bien que tu aies le temps quand même de
ça
dire un dernier mot.
Je suis en voiture et je pensais que ça prendrait bien plus de temps.
Donc, d'accord, très bien. Alors, j'aimerais bien qu'on aborde le sujet délicat du hashtag paye ton auteur. Parce que du coup, on parle quand même, on évoque un tout petit peu la rémunération par rapport aux albums. Bon, les pourcentages, on les connaît, mais on sait qu'effectivement, ce n'est pas le ou les auteurs qui prennent le plus de pourcentage sur un livre, quel qu'il soit. Qu'est-ce que vous pensez de ce hashtag, d'une part ? Alors, peut-être pas par rapport spécialement au salon, en tous les cas. Et la deuxième question, c'est est-ce que ça changerait réellement la donne pour, entre guillemets, un chiffre d'affaires d'une année pour un auteur ?
Alors oui. Enfin, je veux dire, déjà, à paye ton auteur...
Je me fais un peu l'avocat du diable.
Hein, oui, non, mais on est d'accord. À paye ton auteur, il faut ajouter auteur en colère. Hein, ça va de pair si vous cherchez sur les réseaux sociaux, puisqu'on parle de hashtag. Je t'expliquerai le principe de hashtag. Je pense que déjà de base sur paye ton auteur, il y a un truc qui va avec, qui est respecte mon métier en fait. Parce que la plupart des gens se disent qu'on est des stars derrière une table et qu'on vit en se tournant les pouces. Des fois, on dessine des Mickey, on fait des petites bulles comme ça, et puis on se la coule douce. Non, c'est un vrai métier. D'ailleurs, qui cumule beaucoup de métiers. On parlait de l'auto-édition, mais il faut savoir que juste avant de passer le cap de l'auto-édition, on demande de plus en plus aux dessinateurs, dessinatrices en l'occurrence, de gérer des métiers comme coloriste, colorimétriste qui n'existe plus, et tout ce qui est pré-impression en général, tout ça c'est géré...
Fois, c'était l'éditeur qui le prenait en charge et il rémunérait des personnes pour faire ça. Maintenant, nous, grâce au numérique, on le fait gracieusement. Voilà, donc on attend de nous de le faire pour pas en rendre plus. Donc, et comme des cons, on le fait.
Oui, parce que ça a glissé très lentement. Ouais. Et c'est arrivé avec les logiciels qui vont avec aussi du numérique. Et du coup, naturellement, ça a été pris en charge.
C'est-à-dire qu'à la création des planches, on était un peu forcés de le faire naturellement. Et du coup, et puis, connaissant pas forcément nécessairement bien le monde de l'édition quand on rentre en BD, on se rend pas compte qu'avant, autrefois, c'était le métier de quelqu'un d'autre. D'ailleurs, on leur a pris leur boulot, en un sens, ce qui est encore pire.
Photographe.
Pour même pas en vivre. Quoi.
Non, oui, c'est ça. C'est que la marge, ce métier a disparu avec l'argent que ça générait. Et donc,
la question, c'est où est passée la marge ?
Ah, alors, on pourrait l'étaler entre l'éditeur, l'imprimeur et diffuseur-distributeur. En fait, il y a une grosse partie du bouquin qui part chez le diffuseur-distributeur. Il y a aussi des éditeurs qui ont leur propre réseau de diffusion et distribution et donc du coup qui génèrent aussi leur propre argent en publiant des bouquins et en les détruisant. Il y a des flux financiers qui se font comme ça. Parce que ça passe d'une entreprise à l'autre, mais c'est le même groupe. Et ça, en fait, l'auteur, l'auteur, on va dire, je vais manger du côté féminin, puisqu'on on va dire l'autrice, puisque il y a une majorité, est en bout de chaîne. Et le bout de chaîne, il a globalement les miettes, alors que ce bout de chaîne est aussi le début de chaîne, puisque c'est ce qui crée le livre. Hashtag pas d'auteur, pas de livre.
On est un peu comme les agriculteurs, quoi.
C'est exactement
voilà, c'est ça.
Et on vit en France un statut particulier qui est le droit d'auteur à la française avec la paternité de l'œuvre. Ouais, on vit dans une société paternaliste et tout ce qui va avec, dont il y a les termes qui vont avec. Et autour, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis des années, il y a donc ce qui est le copyright. C'est la version, on va dire, je grossis un peu les termes pour vulgariser, c'est la version anglo-saxonne qui fait que, en gros, on vend son œuvre à un éditeur qui, lui, l'exploite un peu comme il veut et on a un gros chèque. En France, on délègue le droit d'exploitation d'une œuvre. Et en France, on est cerné par de plus en plus de lobbyistes qui veulent détruire ce statut particulier de l'auteur pour passer au copyright parce que, globalement, c'est plus simple pour tout le monde.
Dans les ouvrages publiés, je dirais autour du terme générique de la bande dessinée, il y a quand même, finalement, on s'aperçoit qu'il y a toutes les solutions possibles et quasiment toutes les manières possibles d'envisager une bande dessinée. Parce qu'il y a l'auteur illustrateur qui va faire son œuvre unique et qui a chéri son bébé pendant 10 ans et qui va le sortir en noir et blanc, enfin, va savoir. Il y a un éditeur où ils vont travailler à 5 par album quand on a le coloriste, quand on a le lettreur, pourquoi pas, quand on a 2 illustrateurs qui font la couverture, par exemple, hein, comme, si je me souviens bien, par exemple, la série B chez Delcourt. Série B, ils sont 2 sur la couverture, plus les dessinateurs qui font l'intérieur de l'album. Est-ce que dans toutes ces manières, finalement, d'aborder la publication et la diffusion d'un album, il n'y aurait pas, peut-être, est-ce qu'on ne pourrait pas envisager aujourd'hui, quand même, avec tout le réseau possible de diffusion accessible au commun des dessinateurs ou des dessinatrices, est-ce qu'on ne pourrait pas créer finalement un autre moyen pour montrer aux éditeurs qu'on n'est pas obligé de passer par une grosse maison d'édition pour avoir finalement son quota, je dirais, pour payer son loyer, puisqu'on parle quand même de ça.
Factuellement, c'est le cas, mais d'ailleurs, il y a de plus en plus de gens de notoriété diverse qui s'y mènent. Après, mais comme je disais, sur le crowdfunding, tout le monde n'a pas la possibilité de faire un crowdfunding, tout le monde n'est pas un dieu en com, et il y a des gens qui sont vraiment très mauvais à ça, et je pense que ça ne devrait pas être une condition sine qua non d'être bon en com pour pouvoir vivre de la bande dessinée. Alors pour ceux qui y arrivent, tant mieux pour eux, et puis on peut se former aussi, mais après des solutions alternatives, il y en a plein, mais en même temps on voit que les grands succès en crowdfunding, c'est à 90% des gens qui ont fait qui ont une très grosse fanbase, ou qui ont fait des blogs depuis 20 ans, ce qui veut quand même dire que, mine de rien, ça fait 20 ans qu'ils bossent gratos. Et donc, quand on voit les gros succès qu'ils ont maintenant, bon, on va parler de Maliki et Laurel, puisque c'est les deux donc, plus importants. Bon, il y en a eu d'autres, mais bon, c'est les deux qui me reviennent. Quand on pense que ça fait 20 ans qu'ils taffent gratos sur leur blog, ça se relativise vachement, hein, ce qu'ils gagnent par mois maintenant. Hein. C'est quand même un investissement monstrueux. Il faut pouvoir faire cet investissement. Et alors oui, il y a des tas de... Bah, de toute façon, enfin, l'intersyndicale des auteurs réfléchit aussi à des solutions alternatives, réfléchit aussi à intégrer l'auto-édition peut-être dans certains syndicats. Donc oui, les solutions, elles existent, mais les solutions prises par chacun vont dépendre pas mal des histoires personnelles. On n'est pas forcément ultra informé parce que tout le monde parle, oui, et le crowdfunding, mais bon, voilà. Mais je vois, par exemple, moi, je peux donner... J'ai fréquenté des milieux de la fanfiction, par exemple, anglo-saxonne. Je vois des gens qui ont des fans de malades en fanfiction, donc ils ont une vraie fanbase. Quand ils essaient de faire un Tipeee ou l'équivalent américain pour financer leur propre bouquin, ils gagnent 400 balles par mois. Et c'est des gens qui ont des... Enfin, voilà, donc il faut quand même se rendre compte que les success stories en crowdfunding, c'est quand même encore, ça existe, et c'est quand même encore très marginal. Et donc oui, après, il y a des gens qui vivent de l'auto-édition, mais voilà, il faut être capable d'avoir toutes les casquettes.
Parce que je ne veux pas monopoliser la parole, mais juste une précision, parce qu'on parle de la version auteur-autrice ici. Éditeur, c'est un vrai métier aussi. Moi, quand je publie des romans, je suis content d'avoir un éditeur qui fait son métier de relecture, de conseil. Enfin voilà, on n'est pas non plus, juste pour remettre aussi dans le contexte, on n'est pas contre les éditeurs. On surpaye tant d'auteurs, on est avec les éditeurs justement pour qu'on trouve une solution et des solutions ensemble. Pour que tout le monde soit payé et qu'eux, ils sont salariés. Et nous, on ne l'est pas. Bon, c'est comme ça historiquement. Mais logiquement, eux, ils peuvent payer sans se poser de questions leur loyer à la fin du mois, en général. Et nous, pas forcément. Donc, il y a un truc pour se dire, on est tous des êtres humains, on est tous des professionnels.
Mais c'est exactement ce que je voulais dire, en fait. Pour moi, avec l'expérience que j'ai eue, la plus-value apportée par l'éditrice, elle est énorme. On est tombé sur une femme qui était hyper motivée, qui nous a beaucoup soutenus et qui nous a beaucoup donné de conseils, tant pour le scénario que pour l'illustration. Et c'est génial d'avoir quelqu'un qui a lu des bouquins, qui sait ce qui marche, même si c'est... Donc pour ceux qui veulent vraiment vivre de leur art, ça ne va peut-être pas leur parler, mais c'est important d'avoir quelqu'un qui te dit « Attention, si jamais tu te disperses, tu vas perdre un public ou tu vas perdre ceci, cela. » Donc elle apporte vraiment quelque chose en plus. C'est aussi notre première lectrice quand on s'élimine l'un l'autre. Et on a eu des retours super avec elle. Elle a vraiment apporté quelque chose. Et je trouve ça trop dommage de se dire « Bah ouais, les éditeurs ne nous considèrent pas assez, passons-nous des éditeurs. » Non, depuis le début, le partenariat auteur-éditeur, c'est un partenariat. On est ensemble, on est des êtres humains, on va bosser ensemble pour créer quelque chose de beau. Et c'est trop dommage de se dire « Bah puisque vous voulez pas nous, on va... » Non, comme tu disais, on est des humains, payez-nous normalement de façon à ce qu'on puisse vivre et tout le monde s'en portera mieux. Oui.
Alors quand vous vous lancez sur des projets en bande dessinée, quand on sait qu'un projet, ce n'est pas un projet qui dure une semaine, hein, puisque c'est une ou plusieurs années, donc presque la dernière question, ça va être quels sont vos projets, hein, à quel prochain carrefour on peut vous attendre, vous surveiller pour guetter vos productions. Et puis en attendant, je vais quand même poser la question dans le public. S'il y a des questions, autant en profiter sur les cinq dernières minutes, puisqu'on a... On a ratissé un petit peu large autour du thème, donc s'il y a des choses que vous souhaitez aborder, n'hésitez pas à vous manifester.
Alors moi, je vais faire vite parce que là, j'ai jamais eu autant de projets que cette année, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai un bouquin de vulgarisation scientifique chez Delcourt, j'ai une adaptation, j'ai Steinkiss, une biographie qui va sortir. J'ai ma série de romans qui continue, ça, c'est une série qui s'appelle Les Rhéteurs, c'est de la fantaisie un peu sociale, on va dire. Et je vais travailler pour le magazine Carbone aussi, a priori, bon, ce n'est pas signé, mais comme... on va dire que je peux en parler quand même. Je voudrais travailler sur mon efficacité narrative et je vais faire des feuilletons, des feuilletons à l'ancienne, un peu et puis un peu enlevés d'aventure comme ça en publication hebdo.
Et ensemble, donc bon, comme dit, j'ai mis 2 ans à faire le tome 2 de Versipel, donc j'ai 1 an de retard sur tout ce qu'on est supposé faire ensemble. Il faut que je me mette Fissa. En fait, on a un projet. Non, mais ça va, Isabelle me comprend. Puis elle sait qu'on marche mieux avec moi avec la flatterie. on aimerait faire un feuilleton en fait en numérique. Voilà, donc dans le fameux Turbo Média. Dont on parle depuis quelques années, donc narrativement, donc ce serait du case à case. Et après, il n'y a plus qu'à, en ce qui me concerne.
Ça, sur abonnement, on a un éditeur, mais il faut juste lancer le projet.
Il faut juste que je puisse trouver le temps d'y travailler, puis je vais essayer de faire ça vite. Voilà.
Pour ma part, au niveau des projets, je vais continuer les couleurs que je fais pour Rajo, pour Hachette, parce que c'est trop cool. J'espère qu'on aura un tome 2 ensemble à faire, parce que c'est trop cool aussi. On l'aura. Et puis de mon côté, je vais enlever les petites roulettes et commencer à faire moi-même le chemin en vélo parce que grâce à Fabien et grâce à cette expérience, je sais que je peux tenir une BD. Donc maintenant, j'ai 2 scénarios qui m'attendent, peut-être un 3e. Donc je vais monter des dossiers et puis aller démarcher.
Alors pour ma part, c'est parti un petit peu rock'n'roll. Les plannings éditoriaux sont un peu élastiques, donc l'accordéon s'est resserré dernièrement. J'ai un roman Nola Forever qui sort chez Gulfstream en novembre, un roman On reconstruit bien les maisons après les ouragans qui sort chez Pygmalion en septembre-octobre. J'ai la semaine prochaine une adaptation du manga Chi chez Glénat qui sort en escape book, qui sera suivi par un second tome en septembre et normalement un 3e qui devrait suivre. Et puis après, c'est plein de trucs qui sont pas signés, donc on va toucher du bois, c'est tout.
Est-ce qu'il y a des questions dans la salle avant que l'on libère ces messieurs dames? Est-ce que vous pouvez vous donner de la voix?
Je crois que c'est des idées qui ont été soulevées déjà, en fait. Donc après, moi, de mon côté, je faisais mes petites BD, donc je regardais ça de loin. Après, je sais pas, est-ce que quelqu'un a entendu parler de ça plus sérieusement?
Alors, moi, ce que j'ai entendu, c'est qu'en effet, pardon. Non, vas-y.
Personnellement, j'ai un de mes anciens profs qui s'appelle Fabien Vellman, qui est un scénariste extraordinaire, qui est trop sympa et qui est très engagé dans le snack BD, qui avait essayé de sortir quelque chose, une plateforme qui s'appelle Professeur Cyclope. Si vous voulez aller voir ce qu'il fait. Et alors, si je me souviens bien, c'était plusieurs auteurs, autrices de BD qui, sur un site internet, mettaient leurs BD et on pouvait payer comme on voulait. Donc là, il y avait la mutualisation de... Il y a plusieurs types de lectures, donc vous pouvez... C'est comme quand vous rentrez dans une librairie ou une bibliothèque et puis vous payez directement les auteurs. Je ne sais pas si ça a marché ou pas, mais en tout cas, en termes de mutualisation, ça n'existe plus. Bon, ça a été une tentative, en tout cas. Eh oui, c'était du beau monde. Mais du coup, il y a aussi le Snack BD, pour ceux qui connaissent. C'est le syndicat des auteurs de bande dessinée. Et grâce à eux, ils font un boulot formidable et on peut aller les voir pour négocier les contrats, par exemple. Donc on essaye de se regrouper comme on peut, mais on est au début de quelque chose, ça c'est sûr. Il y a plein d'idées à développer.
Alors le Snack, hein, c'est pas une coopérative, c'est un syndicat, hein. Pour être précis, j'ai vu une petite expérience qui s'appelait L'œil de Jack, qui était une galerie, qui a tenté de monter quelque chose de coopératif pour mutualiser les talents. Ils se sont confrontés à des problèmes, de ce que j'en sais, administratifs conséquents et aussi financiers, parce que en fait, ils proposaient donc aux auteurs de BD, en prenant un pourcentage, de gérer tout ce qui était comptable, des trucs comme ça. Sauf que pour trouver les auteurs qui ont l'argent de base pour mettre là-dedans, ben c'est compliqué. Donc du coup, ça a périclité.
La galerie, les sous n'ont pas besoin d'eux, en fait.
Ouais, c'est
voilà,
ça.
C'est ça.
Et donc, ce que je voulais ajouter par rapport à ça, c'est que, comme on disait au début, on est aussi un métier très solitaire. Et du coup, on est très éclaté, ce qui est une force pour, on va dire, les grands méchants qui ne veulent pas qu'on se rassemble. Et du coup, ajouté à ça, ben, on est tous des êtres humains, donc il y a aussi des problèmes de personnes. Et des fois, ça fait péricliter des projets qui pourraient être assez chouettes. Et donc, les coopératives, ouais, c'est une bonne solution, mais on n'a pas toute la mécanique, tous les rouages qui font bien tourner ça.
Le problème, c'est que... Excuse-moi, mais...
J'allais dire la même chose que toi sur le côté que, traditionnellement, on a des activités plutôt solitaires. Alors, on se retrouve parfois au festival pour boire des coups. Et jusqu'à il y a une grosse décennie, finalement, le métier allait encore plutôt bien, voire une quinzaine d'années, quoi. Et les problèmes sont finalement assez récents, les problèmes très sérieux auxquels nous sommes confrontés. Donc ce mouvement de commencer à se rassembler, de réfléchir ensemble à nos moyens, entre guillemets, de lutte ou de survie, c'est récent, quoi. Donc on est tous à faire un travail sur nous, comment on s'implique là-dedans, comment on peut faire. En fait, on réfléchit encore tous aux solutions, quoi. Et c'est assez récent. Donc voilà. Oui, voilà, le syndicat dont on parlait bosse derrière. Et donc on a tous un travail culturel à faire pour aller un peu parfois contre notre naturel un peu introverti. Et donc il y a ceux qui font un gros travail sur eux, puis il y a ceux qui disent non, ça va de mon côté. Donc ça se met en route, quoi.
Juste un dernier mot, et pour ne pas me tromper sur les chiffres, je vous en renvoie sur le site Auteur en colère, qui a créé les états généraux du livre dernièrement. Dessus, vous verrez les chiffres et les pourcentages d'auteurs qui vivent sous le niveau du SMIC, pour voir vraiment les pourcentages sous le seuil de pauvreté, pardon. Et je crois qu'on est dans les 40%, si je ne me trompe pas. Mais voilà, ça vous donne une échelle de notre statut à l'heure actuelle.
Alors, ce qui est bien en annonçant ce dernier chiffre pour clore un débat sur la bande dessinée, c'est que c'est plein d'espoir parce qu'on sait qu'on ne peut que mieux faire. Donc, merci, messieurs et mesdames les artistes. Continuez, tenez bon et à l'année prochaine. Merci.